Laudetur Jesus Christus.
Le pape poursuit sa thérapie à l'hôpital Gemelli de Rome. Le Saint-Père qui a passé une nuit sereine communique le Vatican ce matin. Place Saint-Pierre, les pèlerinages du jubilé se poursuivent et la prière des fidèles se tourne vers l'évêque de Rome. Nous le verrons juste après ces titres. En Allemagne, l'optimisme est de mise chez les chrétiens démocrates. À 3 jours des législatives, le dernier duel télévisé avait lieu hier soir entre Olaf Scholz, le chancelier sortant, et son grand rival Friedrich Merz, le chef de file de la CDU. Ce matin, nous irons aussi en Israël où les dépouilles d'otages doivent être remis par le Hamas, parmi lesquels une mère et 2 enfants, une journée de deuil pour l'État hébreu. Nous partirons également en Corée du Sud où s'est ouvert ce jeudi le procès du président destitué, Yoon Suk-yeol, qui risque la peine capitale. Et puis dans notre dossier ce matin, direction le Brésil, où nous reviendrons sur le combat personnel contre la faim du président Lula. Sous son impulsion, il a créé une alliance mondiale pour sortir de la malnutrition un demi-milliard de personnes d'ici 5 ans.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, le pape François a passé une nuit sereine. Il s'est levé et a pris son petit déjeuner dans un fauteuil. Ce sont les dernières informations partagées il y a quelques minutes par la salle de presse du Saint-Siège. Hier soir, les derniers examens montraient une légère amélioration des conditions cliniques du Saint-Père, soigné pour une pneumonie bilatérale. Et alors que le pape se soigne à l'hôpital Gemelli, les pèlerinages vers la porte sainte de la basilique Saint-Pierre se poursuivent. Des fidèles du monde entier qui viennent accomplir cette démarche jubilaire. Mais ces derniers jours, ils ont bien sûr eu une pensée particulière pour le souverain pontife. Jean-Benoît Harel est allé à leur rencontre.
En fait, on devait participer à une audience et bien sûr, on ne pourra pas y être. Ça aurait été aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc on a dû changer notre programme, tout simplement.
Il est présent dans nos pensées, dans nos prières. Depuis hier, on essaye de prier pour lui. Nous lui souhaitons une meilleure santé, beaucoup de repos. Et beaucoup de force de l'Esprit Saint pour qu'il continue sa mission, si c'est la volonté de Dieu.
Venir à Rome, ça nous aide à le porter dans la prière, à nous ouvrir à ses intentions. En fait, c'est aussi communier à toute l'Église universelle. Donc, nous portons le Saint-Père dans notre prière et nous avançons avec lui.
C'est triste, mais je prie pour lui. Je pense qu'il est très religieux. Il est vieux. Et j'espère qu'il ne souffre pas.
We are here.
Nous sommes venus à Rome pour le voir, le rencontrer. Et nous espérons qu'il retrouvera la santé le plus vite possible.
The health as soon as possible.
Quand on vient à Rome et qu'on sait que le pape est dans un état assez grave, on peut se dire que du jour au lendemain, il peut mourir. Et donc, je sais qu'il est attaché à la Vierge Marie, qu'après chaque voyage, il va se confier à la Vierge Marie. Alors, nous aussi, on peut le confier à la Vierge Marie.
Voilà, témoignage recueilli place Saint-Pierre par Jean-Benoît Harel. Et partout dans le monde, les messages de solidarité, de prière pour François se multiplient. Et depuis Jérusalem, le patriarche latin, le cardinal Pizzaballa, demande au Seigneur force, guérison et prompt rétablissement au pape. Au Canada, le président de la conférence épiscopale invite toutes les familles et les paroisses, ainsi que les mouvements et associations catholiques du pays à s'unir à leurs évêques locaux pour porter le pape dans leurs prières et leurs intentions. Nous referons un point évidemment sur l'hospitalisation de François dans nos prochaines éditions. J-3 en Allemagne avant les élections législatives anticipées. Hier soir avait lieu le dernier duel télévisé entre le chancelier sortant Olaf Scholz et le favori de la course Friedrich Merz, le leader de la CDU, le parti chrétien démocrate. À 3 jours du scrutin, le débat n'a pas apporté de grandes surprises mais a laissé une impression. La course pourrait désormais être jouée à Berlin. Delphine Herbollier.
D'un côté, Olaf Scholz, l'actuel chancelier candidat à sa réélection pour le Parti social-démocrate. Depuis des mois, les sondages le donnent 3e des législatives de dimanche, avec environ 15% des voix. Mais Olaf Scholz y croit, il table sur les 30% d'électeurs qui se disaient encore récemment indécis. Il rappelle aussi l'expérience de 2021, lorsque son parti avait réalisé une remontada inattendue et emporté les élections sur le fil. À ses côtés, Friedrich Merz et ses 20 cm lettre de plus. Le candidat de la droite conservatrice ne croit absolument pas à un tel scénario. Aucun miracle ne va arriver, monsieur le chancelier, a-t-il lancé sur ce plateau de télévision. Le chrétien-démocrate se montre des plus confiants. Son parti est très stable dans les enquêtes d'opinion, autour des 30% de suffrages. Hier soir, Friedrich Merz osait même parler de l'après-élection. Il espère surtout pouvoir former une coalition avec un seul partenaire et éviter le cauchemar d'un gouvernement à trois, comme l'a vécu son concurrent Olaf Scholz ces trois dernières années. Berlin, Delphine Herbelier pour Radio Vatican.
Alors que l'on s'approche du troisième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les tractations américaines avec Moscou pour y mettre fin continuent de rebattre les cartes de la diplomatie. Ce jeudi à Kiev, Volodymyr Zelensky doit rencontrer l'émissaire de Donald Trump qui skélogue, le président ukrainien qui espère une rencontre constructive alors qu'il a été traité de dictateur sans élection par le président américain et qu'il avait lui-même conduit son pays à la guerre, selon Donald Trump, le président ukrainien qui a accusé hier le chef de la Maison-Blanche d'être victime de la désinformation russe. Volodymyr Zelensky qui lui peut compter face à ces attaques sur ses alliés européens comme la France ou le Royaume-Uni, les pays d'Europe qui poursuivent leurs transactions pour rester au centre du jeu diplomatique sur ce dossier. Emmanuel Macron est attendu ces prochains jours à la Maison-Blanche pour rencontrer Donald Trump, a annoncé Paris hier. C'est une journée de deuil en Israël ce jeudi. Le Hamas est sur le point de rendre les dépouilles de 4 otages tués dans la bande de Gaza, parmi lesquels 2 enfants et leur mère, Shiri Bibas. Leur visage était devenu le symbole de la barbarie de l'attaque du 7 octobre 2023. À Tel Aviv, Julia Ganancia.
Oui, il s'agit d'un jour sombre pour tout Israël. D'ailleurs, hier soir, le Premier ministre lui-même avait affirmé « Jeudi sera un jour bouleversant pour tout le pays ». En effet, 4 dépouilles d'otages retenus dans la bande de Gaza depuis leur enlèvement lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 vont être rendus dans la matinée. Il s'agit des corps de Shiri, 33 ans, Ariel, 4 ans et Kfir Bibas, 9 mois, ainsi qu'Oded Lifshitz, 83 ans, lors de l'attaque. Les 4 dépouilles vont ensuite être emmenées dans un institut médico-légal du sud de Tel Aviv pour la procédure d'identification qui pourrait prendre jusqu'à 48 heures. En attendant, les médias israéliens ont été priés de ne pas diffuser d'images de propagande provenant de Gaza aujourd'hui. Des concerts prévus ce soir ont été annulés et les familles des otages ont demandé à ce que l'on respecte leur vie privée. Le temps de faire le deuil est venu. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Et la deuxième phase de l'accord de trêve entre le Hamas et Israël doit commencer début mars si tout se passe bien. Le mouvement islamiste qui s'est dit prêt hier a libéré en une seule fois tous les otages encore restants. Une escalade effroyable du recours à la peine de mort en Iran, c'est ce que dénoncent ce jeudi 2 ONG dans un rapport. L'organisation iranienne Iran Human Rights, basée en Norvège, et l'ONG française Ensemble contre la peine de mort. En 2024, Téhéran a exécuté pas moins de 975 personnes. C'est 17% de plus que l'année précédente. Une guerre que la République islamique mène contre son propre peuple, dénoncent les ONG. On part en Corée du Sud où le président Yoon Suk-yeol, déjà en pleine procédure judiciaire, qui doit confirmer ou non sa destitution, se retrouve à nouveau devant les juges. C'est cette fois la Cour pénale qui doit juger si la déclaration de la loi martiale décrétée au mois de décembre dernier peut être considérée comme une insurrection contre l'État, un crime qui peut être puni de la peine capitale en Corée du Sud. Les précisions de notre correspondant à Séoul, Célio Floretti.
Cela devient presque une habitude, les soutiens du président destitué Yoon Suk-yeol se rassemblent devant le tribunal pour dénoncer une justice corrompue. Mais désormais, ces manifestants d'extrême droite doivent être à 2 tribunaux à la fois, la Cour constitutionnelle et la Cour pénale où le président s'est rendu aujourd'hui. C'est la première fois qu'un président en exercice doit comparaître au pénal. Yoon Suk-yeol devra défendre que la déclaration de la loi martiale ne constitue pas une insurrection contre l'État, un crime sévèrement puni en Corée du Sud. Si les juges le reconnaissent coupable, le président Yoon risque la prison à perpétuité ou la peine capitale. Il y a peu de chances cependant que la peine capitale soit prononcée. La Corée du Sud ne l'a pas appliquée depuis 1997. En parallèle, le procès en destitution à la Cour constitutionnelle se poursuit et devrait toucher à sa fin dans les prochains jours. Les juges doivent ici confirmer ou non la destitution du président, votée par le Parlement en décembre dernier. C'est le Fioretti, Séoul, Radio Vatican.
Le Japon veut plaider sa cause auprès des États-Unis. Le ministre japonais de l'Industrie et du Commerce se prépare à se rendre aux États-Unis pour y rencontrer Donald Trump et demander au président américain des exemptions de droits de douane, annonce ce jeudi les médias japonais. À 79 ans, sa priorité politique reste inchangée, éradiquer la faim. Et dans un contexte de crise aiguë pour le multilatéralisme, le président brésilien Lula a tiré un ballon d'or. Il est parvenu en novembre dernier à rassembler 148 nations, organisations internationales ou institutions financières au sein d'une alliance mondiale créée pour sortir de la malnutrition et de la misère un demi-milliard de personnes d'ici 5 ans. En 2023, 733 millions de personnes ont souffert de la faim, c'est 9% de la population mondiale, selon les chiffres de l'ONU. Le combat de Lula contre la faim est d'abord un combat personnel. Septième enfant d'un couple d'agriculteurs analphabètes du nord-est brésilien, l'ex-ouvrier métallurgiste en a lui-même souffert. D'ailleurs, lorsqu'il arriva au pouvoir pour la première fois en 2003, il en fit sa priorité absolue, promettant 3 repas par jour à ses concitoyens. Et son plan zéro faim fut couronné de succès. En 7 ans, la malnutrition a reculé de 70% au Brésil. Environ 60 millions de personnes, le tiers de la population d'alors, étaient sorties de la grande pauvreté. Carla Tomazini est spécialiste des politiques sociales au Brésil. Actuellement en poste à l'université de Warwick en Angleterre, elle revient sur la mesure phare du président Lula à l'époque, la Bolsa Familia, un programme pionnier d'allocation familiale.
Il s'agit d'une aide financière aux familles à faible revenu, sous réserve que ces familles respectent certaines conditions comme l'assiduité scolaire des enfants et la vaccination et les soins de santé des bases pour les membres de la famille. Et cela a joué un rôle clé dans la réduction des inégalités au Brésil, tout en améliorant aussi les indicateurs de santé et d'éducation.
Est-ce que, par exemple, la Bolsa Família s'était réservée à une catégorie de personnes? Autrement dit, est-ce qu'on parle d'actions ciblées?
Ces programmes, contrairement à d'autres antérieurs au gouvernement Lula, elles n'étaient pas ultra ciblées. Ce sont des politiques massives. Et ce qui est intéressant, c'est que ces programmes, ils sont relativement très peu coûteux vis-à-vis du budget national. Ils se sont aperçus que transférer de l'argent aux familles, ça coûte moins cher que de créer des projets spécifiques. Et en plus, les programmes qu'il a mis en place, ils ont démontré que en investissant dans les sociales, on peut aussi renforcer l'économie.
Et sur quels acteurs dans un pays aussi grand, un pays fédéral, le président Lula s'est-il appuyé pour mettre en place ces mesures?
L'idée, elle est en soi intersectorielle. Donc, il faut avoir à la fois la coordination de l'éducation, de la santé. Il faut aussi pouvoir compter sur les villes. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est de placer l'idée de la pauvreté au cœur des États.
Est-ce que ces réformes ont été accueillies de manière consensuelle par les élus, les fonctionnaires nationaux ou locaux?
On a des acteurs politiques qui vont considérer les Bolsa Família, par exemple, comme une politique trop assistentialiste. Bien sûr, il y a des études qui montrent, par exemple, que les mairies d'opposition pourraient poser des problèmes à la mise en place de ces politiques. Par contre, toutes ces années ont montré que la coopération, elle est plutôt payante, à tel point que c'est impossible aujourd'hui de revenir en arrière. Même les gouvernements Bolsonaro, il n'a pas pu les démanteler. Les Bolsa Família, ils touchent un quart des Brésiliens aujourd'hui.
On est 10 ans plus tard. Aujourd'hui, 33 millions de Brésiliens souffrent à nouveau de la faim. Pourquoi?
Déjà, les limites sont très claires. Ils nécessitent d'une économie en croissance, d'un système éducatif et de santé efficace et de qualité, et d'autres politiques pour renforcer la protection sociale, par exemple un salaire minimum correct. Et en plus, il faut savoir que les gouvernements après Dilma Rousseff, ils ont mis en place toute une série de politiques économiques restrictives. Et donc, les conditions de vie des Brésiliens se sont largement dégradées. Aujourd'hui, on a presque la population de la Suisse qui vit en insécurité alimentaire au Brésil.
Et donc, le gouvernement Lula est à nouveau au pouvoir. Comment est-ce qu'il entend aujourd'hui répondre à cette problématique?
Certes, il essaye de remettre en place toute cette machine. Mais aujourd'hui, donc on est dans un nouveau contexte. On a par exemple beaucoup de Brésiliens qui sont endettés. Il y a une grande partie de la population qui sont en train de perdre de l'argent dans des jeux en ligne. C'est une vraie plaie au Brésil en ces moments.
Est-ce qu'il y a d'autres obstacles comme ça à surmonter pour lutter contre la faim?
La polarisation politique pourrait être un entrave. Je trouve que Lula et bien sûr la diplomatie brésilienne. Ils ont réussi à créer un consensus au niveau global pour la mise en place d'un pacte mondial contre la faim et la pauvreté. Donc je trouve que ça, c'est quelque chose de très étonnant, puisque même au sein du pays, on peut trouver une immense polarisation politique.
Interrogée par Marie Duhamel, Carla Tomazini, spécialiste des politiques sociales au Brésil, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 13h. Excellente journée à tous.